On ne laisse pas bébé dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes de retour dans Ciné 7, on est bien sur RKS pour le quatrième épisode de Ciné 7. Bonjour à tous, aujourd'hui on n'est pas trois, comme d'habitude, on a un invité spécial, donc il y a les deux zigotos de d'habitude, Jade et Marvin, ils sont bien là. Bonjour Jade, bonjour Marvin.
Salut à tous.
Et le quatrième, notre invité surprise, c'est Romain. Bonjour Romain.
Bonjour, bonjour à tous.
Comment vas-tu Romain?
Ah, très bien, très bien.
Présente-toi un petit peu pour la communauté Ciné 7.
Bah, bonjour à tous, je suis passionné de cinéma, j'aime beaucoup le cinéma, même si bon, on verra que dans les films qui vont être proposés, je les ai pas tous vus. Et c'est un plaisir qu'Eliane m'a proposé de venir aujourd'hui, donc je suis là et on va passer un bon moment tous ensemble.
On va passer un bon moment, c'est sûr qu'on va passer un bon moment. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouveau thème, hein, comme chaque semaine. Quel est le thème d'aujourd'hui, Marvin?
Alors, ça va être les meilleures musiques des films de 2019, donc ce qui nous ont marqué.
Les musiques et les films qui nous ont marqué, donc il y a principalement de l'américain.
Ouais.
Principalement, on a un ou deux français, je crois, je me souviens plus de la liste exacte. Mais de toute façon, on verra ça... tout au long de l'heure passée ensemble, donc une bonne heure de prévu pour faire une rétrospective sur les films de 2019 qui nous ont marqués. Et puis on attaque tout de suite avec la musique de Frank Sinatra qui s'appelle That's Life, que l'on retrouve à la fin de Joker. À tout de suite.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself playing flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Du coup, on vient d'écouter That's Life de Frank Sinatra, qui est la musique du générique de fin de Joker. Alors, Joker, Moi, je l'attendais beaucoup au tournant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. On en parlera après. Mais je suis fan de l'univers de Batman. Je suis fan de tous les films de super-héros. Et j'adore les vilains, les anti-héros. Et en fait, il se trouve que je l'ai vu quand il est sorti au cinéma. Et que je ne sais toujours pas quoi en penser. En fait, je ne sais pas si j'ai aimé ce film ou pas. Donc, on va en parler ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais vraiment, je ne sais pas, en fait. Je crois que je n'ai pas d'avis sur ce film.
Alors moi, Joker, je l'attendais aussi beaucoup comme Jade, sachant que je suis en fait assez fan du Joker du Dark Knight, donc avec Heath Ledger, et j'ai été assez déçu, je pense un peu comme tout le monde, du Joker de Suicide Squad. Donc quand ils ont annoncé un nouveau Joker, avec en plus Joaquin Phoenix dans le rôle titre qu'on connaît pour ses films, pour ses performances d'acteur, j'ai été assez hypé, et j'ai été aussi un peu déçu. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté.
Moi, c'est un peu l'inverse. Enfin, effectivement, le Joker de Suicide Squad, j'attendais beaucoup. Parce que je voyais les visuels avec Jared Leto et je m'attendais à quelque chose de plutôt pas trop mal, même s'il était un peu au second plan. Et j'ai été extrêmement déçu par rapport à ça. Et donc le nouveau Joker, effectivement, il y avait de nouveau beaucoup d'attentes. Et moi, j'ai été plutôt agréablement surpris de le voir un peu plus sombre, mais vraiment sombre et psychologique par rapport au Joker de Heath Ledger, qui est un peu plus dans la démence, dans la folie, mais qui fait avancer le film. Là, comme le film est centré sur lui, j'ai bien aimé le principe et le fait que ce soit bien plus psychologique, bien plus pensé, bien plus sombre sur le personnage. Et c'est ça qui a fait que j'ai bien aimé le film j'ai trouvé que c'était un peu un Joker différent qu'un Joker des comics qu'on peut voir un peu plus traditionnellement, se battant avec Batman et étant fou et faisant des coups fourrés. Là, c'est vraiment quelque chose de centré sur lui, bien plus sombre, bien plus foncé. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'a plu, ouais, dans celui-là.
À la décharge de... C'est celui qui joue le Joker de Suicide Squad, c'est bien Jared Leto.
Leto, ouais.
Voilà.
Ouais.
À sa décharge, il me semble qu'en fait, il avait plein de scènes qui lui étaient consacrées dans le film et qu'à la fin, il s'est vraiment... on lui a amputé plein de scènes, ouais, qui lui étaient consacrées. Donc... apparemment, il y avait vraiment de quoi faire et au final, on a été cantonné avec une dizaine de scènes avec lui et que tout le monde a été un peu déçu. Bon, après, moi, j'ai pas trop aimé aussi le design de ce Joker, un peu quand il était maquillé, comment il était, ça faisait vraiment Joker de banlieue, vraiment.
Je pense qu'ils ont essayé de se démarquer vraiment de ce qui avait été fait avant, mais.
Bah, pour le coup, c'est original.
Du personnage, voilà.
C'est original, mais bon, déjà Suicide Squad que j'ai pas du tout accroché, voilà. Mais juste pour un peu prendre la défense de Jared Leto. Après, donc c'est vrai qu'on passait donc de celui de Heath Ledger qui a eu l'Oscar à titre posthume, qui a été vraiment une grosse claque. La légende dit aussi qu'il s'est suicidé à cause de son rôle. Donc, et on passe donc du tout à rien avec Jared Leto. Et on arrive avec ce Joker qui, bah, pour ma part, aussi je trouve qu'est original, même au niveau des habits. Puis même le principe de faire vraiment un film sur lui, c'est ce qui fait qu'on suit encore plus son côté psychologique. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux comics, parce que c'est pas du tout la même histoire qui fait que le personnage devient le Joker... ça le replace dans notre univers à nous, donc quelque chose qui peut être vraiment plus réel et qui pourrait nous arriver à n'importe qui. Et c'est ça, moi, que j'ai bien aimé, c'est vraiment de faire un film anti-héros et auquel on peut vraiment s'identifier et se dire c'est notre société. Et justement, le film justement critique notre société avec un peu la classe dominante et puis la classe inférieure, peut-être pas les bons termes, mais qu'on délaisse et qu'on oublie.
Par contre, ce que moi j'ai apprécié, c'est qu'ils ont fait un film de super-héros, en fait, enfin de méchants, dans l'univers Batman, et ils n'ont pas, ceci dit, essayé de caler tout le trivia, tous les personnages, toutes les références possibles. En fait, c'était un film qui était très accessible, même si on n'est pas forcément calé sur le sujet, et qu'on pouvait aller voir sans avoir de connaissances particulières sur l'univers Batman, quoi.
De toute façon, c'était un film pour les Oscars.
Il y a eu des références plaisantes.
Ouais. Voilà,
oui. C'est vrai que c'est un film à Oscar, mais ce que vous dites est juste, c'est que c'est un Batman, c'est un Joker, mais vraiment hors série, quoi. C'est un Joker avec un fond de critique sociale et qui a vraiment rien à voir. Enfin, dans les éditions un peu originales, soit on sait pas d'où vient le Joker et on s'en fiche un peu, soit c'est plutôt quelque chose d'extraordinaire, une cuve d'acide ou ce genre de choses qui le fait vriller. Alors que là, c'est vraiment la société et sa personnalité qui en fait un Joker réaliste et pas un Joker de fiction. Enfin, moi, c'est un peu la sensation que j'ai eue en regardant le film. J'avais l'impression presque... On avait l'impression de suivre une histoire plus ou moins vraie, quoi. Et d'un retournement d'un personnage lambda dans la vie lambda et pas un personnage de fiction qui va se battre contre des super-héros et qu'on ne rencontrera jamais dans notre vie. Là, ça peut être très bien notre voisin ou notre frère, quoi.
Comme c'était le cas dans le film, du coup.
Oui, exactement.
Moi, quand j'avais vu la bande-annonce, en fait, on nous le vendait dans un sens où le Joker, en fait, il allait devenir fou à cause de la société, à cause de la société de consommation, à cause des riches. Et en fait, on apprend, donc c'est pas un spoil, dans le début du film, qu'il est déjà fou. Il est déjà fou, en fait, d'entrée, parce qu'il a déjà des séances avec sa psychologue. Et en fait, on va vouloir l'ériger comme un héros du peuple, mais en fait, on va ériger un fou, quoi, un fou dangereux. Donc, pour moi, en fait, c'est même pas la société qui l'a rendu fou, il était déjà fou bien avant.
Mais est-ce que... On n'a pas toute l'histoire non plus depuis sa naissance. Est-ce qu'il ne suit pas une psychologue pour des raisons X ou Y dues avec à la société?
Mère, ouais. Oui, bah après, parce qu'on apprend après que c'est avec sa mère qui a... bah après, il me semble me rappeler dans le film qu'il pense à un moment que Bruce... Enfin, le père de... Ah, comment il s'appelle le père de Batman?
La famille Wayne.
Thomas, oui, voilà, bah,
Thomas Wayne.
Oui, Thomas Wayne. Ah, voilà, oui, parce que Bruce Wayne, c'est Batman, et apparemment, il pense que c'est son fils, il pense que c'est son père, ouais. Et donc après, il va harceler.
Il y a une rivalité voilà. Avec Bruce.
Mais moi aussi, du coup, ce que j'ai bien aimé, il me semble que le film n'est pas, c'est pas DC Comics, le film.
Non.
Si,
ah si
quand même.
Si, j'en ai un quand même. Mais
Ah oui, c'est vraiment parce qu'il me semblait.
Mais ça fait bon, c'est pas partie du DCU.
Ah ouais, voilà.
Ce qui en fait
voilà,
la c'est production, bah, de, on va dire avec tous les films donc qui partent de, ça avait commencé avec Man of Steel et ça finit du coup bah là encore avec Wonder Woman, Shazam. Mmh. Là c'est vraiment un film hors DCU. C'est vraiment que la Warner qui l'a fait. Mmh. Mais derrière il y a pas de une connectivité avec d'autres films.
Effectivement, quand il y a la rivalité entre Bruce et le Joker, j'avais un peu peur qu'on nous fasse venir le Batman à la fin, qu'il sorte de nulle part et que ça casse un peu tout le délire. Ouais. Et là, c'est bien de faire juste référence et de dire en fait, c'est pas non plus qu'un film réel, de faire référence au DCU, mais sans non plus l'introduire pour l'introduire et le forcer à coups de pied. Quoi.
Bah, il y a une théorie qui dit qu'en fait, parce que ouais, le Bruce du film, il est assez jeune par rapport au Joker. Enfin, le Joker, il doit avoir 40 ans.
Gosse. Voilà. C'est un gosse dans le film.
Ouais. Et il y en a qui disent que si, admettons, il y aurait une histoire derrière, en fait, là, ce Joker qu'on a vu dans ce film, ça serait plutôt le Joker, on va dire, de l'origine. Et si, admettons, un jour plus tard, il voudrait faire un film avec, du coup, le Batman jeune, mais qui est un peu plus vieux, du coup, dans un prochain, ça serait, en fait, avec un adepte du premier Joker. Mmh. En fait, il reprendrait, du coup, le flambeau du premier Joker qu'on a vu dans ce film.
D'accord. Non, parce que moi, vraiment, ce que j'ai kiffé aussi dans ce film, c'est cette référence, tu vois, se rappeler de la scène où il y a donc le Joker qui se rend devant le manoir des Wayne, et puis il y a Bruce Wayne qui est tout petit, et puis du coup, il y a le premier contact, en fait, entre le Joker et puis Bruce Wayne, quand il est tout petit, il se rend pas compte. Puis donc il y a cette scène un peu dérangeante et bizarre où il lui fait faire le sourire, enfin il lui force à faire un sourire avec ses doigts. Et je trouve ça vraiment, enfin moi ce que je sais même plus où ça en est le projet de faire un deuxième Joker ou s'il y aurait ensuite,
c'est pas prévu.
Voilà, c'est pas prévu, mais ce qui serait vraiment stylé, c'est qu'il y ait ensuite une sorte de Batman ou alors un Joker où le Batman du coup pour X raisons devient le Batman, enfin Bruce Wayne grandit et devient le Batman, et ensuite qui est la rivalité entre les deux, et puis en mode bah ouais, je me rappelle quand il était petit, il était déjà là, enfin voilà, je sais pas ce que ça pourrait donner. Après bon, les projets sont tombés, n'ont pas poursuivi pour un deuxième, donc
ça reste un film très abouti et un film à Oscar comme on l'a dit tout à l'heure, parce que on rappelle quand même que Joaquin Phoenix a eu l'Oscar de l'interprétation en premier rôle.
C'est mérité
parce que c'est quand même un film, un peu un rôle qui est très dérangeant et dérangé et qui joue à la perfection.
Et on a aussi, pour en finir, une très belle photographie, donc avec un aspect assez jauni sur les rues, donc surtout dans le quartier un peu pauvre, et avec une bonne inspiration sur du Taxi Driver. Beaucoup en fait Todd Phillips, il a dit qu'il s'est beaucoup inspiré du travail de Scorsese sur La Valse des Pantins et de Taxi Driver pour en fait du coup créer son Joker à lui.
Et en parlant de films à Oscar, on va enchaîner avec un autre film qui a eu des Oscars, dont on a parlé la semaine dernière, donc on va pas trop s'épancher. N'hésitez pas à retrouver le podcast sur l'épisode spécial Tarantino, et on va réenchaîner avec California Dreaming de Once Upon a Time in Hollywood.
Sky is gray. I went for a walk.
He knows I'm gonna stay. Yes, he knows, 'cause I told him so. Oh, California dreaming on such a winter's day. The sky is gray. Oh, I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was bitter, if I wasn't in LA. Porque yo me siento tan bien y por eso yo te quiero, porque tú me tratas bien en California. Mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor, por RKS.
My bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my life. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out this future, I'm here alone. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all this science I don't understand, it's just my job 5 days a week. I'm not the man they think I am at home. Oh no.
C'était Taron Egerton et non pas Elton John pour la BO de Rocketman, le film, le biopic sur Elton John. Et oui, c'est Taron Egerton qui chante. Ce ne sont pas les chansons originales, si vous n'aviez pas reconnu. C'est pour l'anecdote. Il a pris des cours de chant pour pouvoir faire la BO et toutes les chansons qui passent dans le film sont chantées par lui ou composées exprès pour le film. N'est-ce pas, Marlene ?
Tout à fait. Par rapport en fait à un Bohemian Rhapsody où c'était en fait doublé, donc Rami Malek n'avait pas en fait chanté directement les chansons de Queen. Là, on avait du coup Taron Egerton qui a pris des cours de chant pour pouvoir se rapprocher au plus de la voix de Elton John. Et moi, je pense que c'est réussi personnellement.
Oui, c'est vrai que sur les premières écoutes, si on fait pas attention et qu'on ne le sait pas, on sent que ça change, mais on peut se dire que c'est peut-être une version live ou une version refaite par Elton John pour la BO du film. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, c'est bluffant. Et puis même au niveau de la gestuelle et tout ça, mais après ça on le retrouve un peu dans d'autres biopics. Mais c'est vrai qu'au niveau de la voix, c'est pas tous les biopics où les acteurs chantent, et c'est tout à son honneur.
Jade, un avis ?
Moi j'ai beaucoup aimé ce film. Après j'avais beaucoup aimé Bohemian Rhapsody, parce qu'on va parler un peu... en parallèle, mais en fait j'ai trouvé que c'était un film, enfin un biopic qui rendait un plus bel hommage, dans le sens où c'est un film qui s'accorde quand même le droit d'être un peu fantaisiste. Il y a quelques scènes où voilà, on part un peu dans tout ce qui est la fantaisie, en fait, des choses qu'on n'a pas vues dans Bohemian Rhapsody, qui étaient beaucoup plus sérieux, qui se prenaient plus au sérieux et qui étaient plus pas... je sais pas comment dire, en fait. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est un film pour moi qui est beaucoup plus libre, qui est beaucoup plus créatif et qui a vraiment cherché à montrer pas seulement la vie d'Elton John, mais également sa personnalité, et à montrer ses vraies couleurs, en fait, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un bel hommage, et un hommage plus sincère et plus authentique, j'ai envie de dire, que le biopic sur Queen.
Parce que à la différence de Bohemian Rhapsody, qui est un vrai biopic plus ou moins documentaire, même s'il y a toujours des largesses par rapport à l'histoire, Rocketman est une comédie musicale. Les passages de musique sont pas là pour raccompagner le film, sont vraiment là pour vous faire chanter, faire danser. Il y a du spectacle derrière. Effectivement, ça correspond un peu à la scénographie de Elton John, où la scénographie de Queen était assez extravagante dans la danse, mais moins dans la scénographie. Elton John, et on le voit bien dans le film, a toujours des tenues extravagantes, pleines de couleurs, pleines de paillettes et de plumes. Et le film le montre bien aussi au niveau de ça, au niveau des musiques. Les musiques sont vraiment comme une comédie musicale des années 70-80, où tout le monde danse, tout le monde chante, et où la narration du film continue, mais pas dans la même manière. C'est vraiment différencié, et c'est ça qui fait que le film est un peu plus libre, et au niveau de la prise de parole est un peu différente. Et à chaque chanson, et on le voit bien par exemple dans la scène du troubadour, où c'est la première fois qu'il chante en public, c'est vraiment surprenant, parce qu'il y a un décalage entre la narration purement et la musique, où là ça devient un spectacle, et un spectacle pour tout le monde.
Moi, si je peux rebondir sur ce que tu as dit, Jade, concernant en fait le fait que le film était assez fantaisiste par rapport à un Bohemian Rhapsody, je trouve aussi qu'il est assez réaliste, dans le sens où là on va avoir il va avoir zéro filtre, dans le sens où on va nous montrer les addictions de Elton John. Donc il n'a pas voulu cacher tout ça à ses fans, donc tout ce qui est addiction au sexe et à la drogue, parce que ça il l'a avoué, et il y avait zéro tabou, contrairement à Bohemian Rhapsody, on avait zéro scène de ça, et en fait on pouvait même pas le savoir.
Ouais, c'était un film beaucoup moins sage, en fait, et c'est un personnage affriolant, et moi j'ai bien aimé qu'on montre toutes les facettes et qu'on cherche pas à dire non, ça s'est pas passé, ou... Enfin, Bohemian Rhapsody, c'est quand même un film qui a été... Il y a des choses qui ont été mises de côté, mais c'est aussi un film qui a été très censuré dans certains pays. Mm-hmm. Et après, je sais pas ce qu'il en est de Rocketman, mais en tout cas, moi j'ai aimé voir toutes les facettes, en fait, le sombre et le mensonge.
Et qu'il ose aussi, montrer en fait sa jeunesse, donc auprès de ses parents, qui étaient assez tyranniques, il en cache pas, même si d'ici là en fait ça a été pardonné avec par exemple sa maman, il a quand même montré la vraie facette de sa mère quand il était jeune, que voilà, il était pas forcément aimé, il était pas forcément désiré, et que en fait ça se passait pas très bien à la maison.
Ouais, mais c'est pas tout à fait la même approche aussi au niveau... On compare beaucoup avec Bohemian Rhapsody parce que c'est le même réalisateur, enfin au
ils
niveau du montage final. Ils sont sortis avec très peu de temps d'écart, ils ont beaucoup été comparés parce qu'ils avaient même au niveau de l'affiche, c'était un peu les mêmes couleurs, les mêmes visuels. Mais en fait, c'est pas du tout la même approche au niveau de l'angle d'attaque, parce que Bohemian Rhapsody, c'est plus un hommage. Freddie Mercury n'est plus là. C'est le guitariste Bryan Singer qui avait les clés en main tout le long et qui a voulu que ce film soit un hommage. Et on le voit bien aussi au niveau de la fin, que dans la manière dans laquelle se termine le film. C'est plus un hommage que vraiment un reportage sur sa vie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, d'autres qui sont mises en lumière mais un peu atténuées ou machin. Alors que Elton John est là, et c'est tout à son honneur aussi, il a osé et il a vraiment assumé tous ses travers, toute sa vie, et il a donné de sa personne pour le film, parce que du coup, Freddy ne pouvait pas dire « oui, bah ça vous le mettez, ça vous le mettez pas ».
Du coup, sa famille l'a fait pour lui, mais c'est vrai que c'est toujours plus compliqué d'approcher le sujet quand la personne est décédée, quand on fait un hommage posthume.
Tout à fait.
Enfin, faut pas salir la mémoire, faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, alors que Elton John, je pense qu'il avait un veto quand même, et il pouvait choisir ce qui allait apparaître ou non à l'écran.
Bah moi par exemple la scène de Bohemian Rhapsody, donc ce que tu disais Kylian avec la scène finale où on avait un hommage du coup au concert, le plus grand concert, donc Live Aid en 85, où on voyait du coup la performance de Freddie Mercury. La scène est extrêmement longue en fait. Pour moi c'est, en fait ce qui aurait été, et de toute façon c'était prévu comme ça de base par Bryan Singer, c'était qu'en fait on a des ellipses dans le temps, qu'on revenait des fois dans son passé, on repartait dans son présent, mais là en fait ça nous a montré en fait un film dans l'ordre chronologique, mais il n'était pas monté ainsi de base, donc pour moi le film n'est pas réussi dans ce sens là et d'ailleurs ouais, la scène, la dernière scène est beaucoup trop longue en fait, c'est juste une scène de concert qu'on a l'habitude de revoir.
C'était du fanservice, hein.
Clairement, c'est ça. Et puis en plus quand on regarde par rapport aux images d'archives, c'est quasiment monté, filmé, et pareil.
C'est une
très
belle performance de Rami Malek.
C'est une très belle performance, mais dans ce cas-là, à la limite, mettez les images d'archives avec le générique et puis c'est bouclé, quoi.
Alors oui et non pour Rami Malek, parce que hormis sa gestuelle, niveau look, il lui ressemble pas énormément. Ouais, il a la moustache.
Il a même pas la bonne couleur de yeux.
Déjà, et en plus, il a des prothèses dentaires. Donc oui, si on...
Bah pour trouver un acteur qui a les mêmes dents que Freddie Mercury, il faut quand même envoyer.
De base, il y avait un acteur qui était pressenti pour le rôle, c'était Sacha Baron Cohen.
Mais le personnage colle pas trop. Enfin, il est extravagant aussi, mais vis-à-vis de la communauté, enfin.
Ah ouais, mais après c'est un bon acteur, donc il aurait pu se fondre dans le rôle.
Oui, mais après c'est pas son personnage de base.
Ça
en fait,
il a jamais malheureusement.
Ouais, après voilà, c'est ça.
Après, il aurait pu se révéler, on sait pas. Il y a plein d'acteurs qui ont fait le grand saut et qui ont joué des rôles qui étaient pas du tout taillés pour eux.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais là après, comme on touche à des biopics musicaux, il y a toute une communauté de archi-fans purs et durs et qui seraient prêts presque à boycotter le film pour telle ou telle raison. Enfin, moi je le ressens comme ça, étant grand fan de Queen, quoi. Mais après, pourquoi pas, hein. De toute façon, le film il est ce qu'il est, ils vont pas faire la même chose avec un autre acteur, ce serait un peu contre-productif.
Oui, on parlait par contre de Rocketman à la base et le casting de Taron Egerton est quand même super, super bien vu.
Oui, et puis Taron Egerton, comme beaucoup de films américains, il a beaucoup donné de sa personne. On disait les cours de chant, les cours de danse. Il a osé presque être ridicule à certains moments dans le film, et vraiment, c'est une très belle performance, quoi.
Il aurait dû être noté pour les Oscars.
Oui, on parlait de films à Oscars, justement, et c'est Joaquin Phoenix qui a eu l'Oscar, mais Taron Egerton n'était pas bien loin derrière non plus. Parce qu'il fait une sacrée performance, il passe du tout au tout dans le film et c'est assez impressionnant.
Et salué par Elton John en plus, c'est pas rien quand même.
Et salué par Elton John, et Elton John qui a même donné de sa personne aussi énormément au niveau des prestations, et les médisants diront de la promo aussi, parce qu'ils ont beaucoup chanté tous les deux dans les festivals ou dans les cérémonies. Et c'est tellement beau, c'est tellement bien fait qu'on vous en a mis un extrait. Et puis on va conclure Rocketman grâce à ça, à tout de suite, avec l'extrait donc de Elton John et Taron Egerton qui chantent Your Song au festival Brighton and Hope de 2019.
And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done.
You're in the world.
Et donc c'était la BO de Le Mans 66, donc réalisée par, j'ai oublié son nom.
Ouais, et qui est composée, parce qu'on a entendu Romain un peu en fond, la musique est composée par Marco Beltrami et Buck Sanders.
Voilà, donc c'est très un belle, très bon très film belle. Avec bah, encore un biopic du coup, sur la fameuse rivalité entre Ford et Ferrari durant la course donc, des 24 heures du monde en 1966, donc avec deux bons acteurs, donc Christian Bale et Matt Damon, donc je pense que tout le monde aime Christian Bale, pas vrai Romain?
Ouais, ouais, plutôt, ouais.
Un Batman aussi, on parlait de Batman tout à l'heure et du Joker, hein, c'est ouais. Christian Bale qui est aussi un Batman.
Il y a un lien partout.
Ouais,
là, c'est vrai. L'épisode est lié. Et donc très bon film, donc du coup avec des scènes assez assez époustouflantes. Donc en particulier du coup, on a eu le montage, enfin le meilleur Oscar pour le montage du montage tout simplement, donc sur les voitures.
Et pour le mixage avec... aussi, non
c'est pas... Non, le non. mixage, je crois, c'est 1917.
Ouais, un peu... ouais, film de guerre. Souvent.
Il y a eu, ah ouais, je crois, qu'il y a eu un film de guerre où ils ont eu ça, donc effets spéciaux et montage. Et donc là, en fait, c'est, enfin pour moi, ce film est totalement dingue. Techniquement, en fait, pour filmer les voitures.
Ah, parce que c'est sans image de synthèse. Parce que je l'ai pas vu, en fait. Je demande. Alors, c'est tout.
Principalement en image, en vraie image, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais image de synthèse.
Oui, oui, ils ont vraiment conduit les voitures. Ouais. D'accord, ok.
Ouais, ou sinon c'était des voitures téléguidées aussi. J'ai vu quelques extraits du making of.
Ouais, des mini.
Comme ça se fait beaucoup, des mini ou des coques, en fait, juste la coque avec dessous un moteur et quatre roues, quoi.
Ah, bah c'est intéressant.
Mais c'est vrai que. Et puis, il y a aussi un énorme travail d'archives aussi sur ce film-là, au niveau de. Avec la volonté de faire une vraie rivalité, enfin de retracer la vraie rivalité, et aussi un énorme travail d'archives au niveau des véhicules. Des voitures, du système d'entretien et de la mécanique aussi qu'il y avait derrière. Et c'est assez bien fait, assez bien poussé par rapport à un film américain qui parle de la France, quoi. C'est vraiment, là-dessus, c'est assez bluffant, quoi. Ce qu'ils ont réussi à aller chercher au niveau des archives et de la réalité historique, c'est quelque chose de vraiment beau.
Après, pour en parler de la réalité historique, elle a été légèrement modifiée pour la fin du film, pour avoir un espèce de happy end. Sachant qu'en fait, pour ceux qui l'ont vu, vous savez, du coup, dedans, il y a du coup l'homme d'affaires qui va en fait un peu capoter tout le plan de Ken Miles.
Attention, ça arrive, ça.
Non, il n'y aura pas de spoil.
Disclaimer. Et,
bon, bah, pour ceux qui connaissent du coup la vraie histoire du Le Mans 66, à la fin, voilà, on a du coup donc, une belle happy end. Et en fait, ça a été légèrement modifié pour coller au scénario. Donc, pas de spoil, mais je vous laisse découvrir la vraie scène après avoir vu le film.
Ok.
Et oui. Bah, moi, c'est un film que j'ai bien apprécié. Et je pense que je vais me mettre à la Formule 1, je vais me mettre à la course parce que j'avais adoré Rush. J'ai bien aimé ce film. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Là, j'ai une nouvelle passion en train d'arriver. Mais ouais, c'est vrai que
c'est un milieu film, intéressant. Ouais.
C'est un film très beau, très esthétique, très léché, soigné, millimétré, comme on pouvait l'attendre d'un film sur le sujet. Et c'était un bon moment. Alors, je vous en parle, j'ai encore les 30 dernières minutes du film à regarder. Mais pour l'instant, c'est un très bon moment.
Et du coup, c'était James Mangold qui avait réalisé, donc j'avais perdu son nom, Le Mans 66, donc il avait aussi réalisé du coup l'excellent Logan.
Ok, oui, effectivement, l'excellent Logan. Ouais.
Et il y a Kristen Bell, il faut aller le voir.
C'est un argument en soi.
C'est un argument.
On s'arrête là.
Mais du coup, à noter que Jade voudra faire une spéciale Formule 1, parce que maintenant elle a une nouvelle passion.
En vrai, si vous n'avez pas vu Rush, ce film, c'est vraiment une de mes grosses claques des dernières années, il était incroyable.
Il est excellent.
Et ben, je ne l'ai pas vu, donc ça rajoute encore un des films... de ma longue liste et éternelle liste.
Je sais pas dans quelle émission on pourra le rentrer parce que on va pas faire spécial Formule 1.
Ça peut être un biopic. Mais... Ça peut être un spécial biopic parce qu'on parle du coup d'une rivalité entre deux pilotes de Formule 1.
Encore, ouais.
Et en plus, il me semble que même musicalement, il est vraiment très très abouti. Il y a des belles choses dedans.
Bah, c'est Hans Zimmer. La bio, c'est Hans Zimmer.
Classique.
Ouais, bon, bah, voilà quoi. On va pas en dire plus.
Ça suffit.
Ça suffit, exactement. Et bah, du coup. Et encore une très belle découverte pour cette année 2019, qui est Le Mans 66, à voir. Et puis, comme disait Romain, il y a Christian Bale, donc à aller voir, quoi. C'est vraiment un film à trouver. Et on va continuer avec une production assez, entre guillemets, originale, parce que c'est le premier gros film produit par Netflix qui a, mine de rien, quand même, Martin Scorsese à sa tête. C'est The Irishman, c'est un très beau film. Et on se retrouve tout de suite après dans le Ciné 7 sur RKS et sur RKS.fr.
Of the night.
On a enchaîné avec un deuxième épisode, on est de retour sur Ciné 7 sur RKS, on a enchaîné avec un deuxième disque pour retomber en enfance, et je sais qu'avec Marvin on s'est regardé tout le long de la chanson, parce que c'est vraiment notre enfance, C'est notre poster, quoi. On l'a dans la chambre, on a les peluches, on a les jouets. C'était la BO de Toy Story 4, mais avant, il y a eu la BO de The Irishman, qui est la première grosse production cinématographique de Netflix, même s'il n'est pas sorti au cinéma, avec à sa tête Martin Scorsese et Robert De Niro et Al Pacino comme acteurs. C'est quand même un sacré casting et un de leurs premiers grands rendez-vous au cinéma.
En plus, c'était un film qui était prévu dans les cartons depuis des années, à peu près 10 ans, que Scorsese bossait dessus. De base, initialement, il devait sortir au cinéma, puis Netflix a acheté, on va dire, les droits et a donné le porte-monnaie, il a ouvert le porte-monnaie pour Scorsese. Donc, on retrouve en fait ses acteurs fétiches, donc du coup, Harvey Keitel, Joe Pesci et exactement... Robert De Niro, j'ai encore oublié son nom. Donc, assez long quand même, 3h30.
Ouais.
Je pense que la plupart, en fait, il y a eu des assez mauvaises critiques sur le net. Je pense que c'est en partie dû en fait à sa longueur. C'est assez long, un film de mafieux gangster de 3h30. Ça n'a jamais été fait. Je pense à peu près 3h grand max ou 2h30 pour les films à peu près de Scorsese. Par contre, on peut quand même noter que c'est une prouesse technologique. C'est un des premiers films où en fait on va avoir une technique de rajeunissement pour De Niro, Al Pacino et tout le monde, pour les acteurs. Sur en fait, il va avoir zéro capteur sur leur visage, ça va tout être fait sur ordinateur post-prod. Voilà.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Post-prod.
Parce que la volonté était de les rajeunir, hein. C'est quand même des acteurs qui ont presque 80 ans, si je me trompe pas.
À peu près, ouais.
Et,
ouais, ils sont pas tout frais. Ouais.
Et, bah, ouais, et puis, comme le but c'était de montrer un jeune mafieux qui est en train de monter, un jeune mafieux de 80 ans, ça dénote un peu.
Pour moi, ça aurait pu être plus judicieux de prendre des acteurs plus jeunes et ensuite faire apparaître du coup De Niro par exemple plus vieux, âgé, donc en ayant des regrets sur sa vie. Donc après il faut trouver un acteur qui lui ressemble, mais je pense que il a pas le physique le plus original du monde, quoi. Donc je pense que c'est assez facile de trouver un acteur qui peut le ressembler. Voilà, quoi.
Et c'est un des premiers films Netflix à être primé aux Oscars, celui-là, ou c'est Marriage Story? Je me souviens plus.
C'est la même année, donc ouais. 2019, les deux, ouais. Franchement.
Est-ce qu'il a été primé, en fait?
Ouais.
Ouais, il me semble bien.
Son meilleur second rôle en nommé pour Joe Pesci et Al Pacino. Et je crois meilleur costume ou meilleur décor pour, en fait, avoir, filmé... je crois que ça se passe dans les années 60, donc les décors des années 60, ou alors c'est les costumes. Mais en tout cas, il y a eu au moins 3 ou 4 nominations. Dis-nous, Jade.
Je vais vous dire, mais pas tout de suite, m'attendez pas.
Et ben, on va pouvoir enchaîner du coup avec le film de notre enfance, enfin le quatrième volet du film de notre enfance, Toy Story 4, qui est sorti aussi pendant cette année 2019. Moi, perso, j'avais quand même beaucoup d'appréhension, parce que le 3 finit parfaitement bien, il boucle la boucle au niveau de la scénographie, de la photographie. Il est vraiment fait pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Finalement, ils ont annoncé le 4. J'étais mi-excité, mi-anxieux de voir ce que ça allait donner. Finalement, visuellement, j'ai été bluffé. Et graphiquement, il est incroyable. J'ai trouvé que les textures des personnages sont vraiment magnifiques par rapport au premier, par exemple. C'est vraiment bien fait, quoi, visuellement.
Déjà qu'à l'époque, en 95, c'était déjà fou, Toy Story.
Bah, c'était le premier film fait uniquement par ordinateur, ouais. Et c'était déjà fou. Enfin, on sait que les studios Disney, les studios Disney Pixar sont avant-gardistes sur beaucoup de choses. Mais là, au niveau des textures des personnages et des décors, c'est quand même assez incroyable à voir. L'histoire est gentillette par rapport au premier. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Scénario simple.
Ouais, oui, voilà, simple. C'est marrant. Ça, il y a toujours derrière quand même encore une bonne idée, une bonne morale.
Après, pour moi, c'était pas forcément, c'était un peu l'épisode de trop.
Ouais, voilà, pas
pour
nécessaire.
Moi, le 3, ouais. Moi, j'ai parce que l'épisode.
Comme tu l'as très bien dit, il bouclait la boucle, quoi, le troisième. Mmh. C'est vraiment, on terminait sur ces nuages qui faisaient référence au papier peint de
la chambre, première scène du premier film. Ouais.
Donc vraiment, il arrive en fin de vie, donc ça montrait à la fin de l'enfance. Quand on rentre, il va à l'université, on perd une partie de son enfance. Et puis là, c'est un bon film, hein, vous n'allez pas vous faire chier, on passe un bon moment, c'est un dessin animé pour les petits, pour les grands, mais je trouve qu'il apporte pas quelque chose de plus, sans faire de spoil.
Il aurait presque pu être fait en une sorte Toy Story, mais sans les personnages principaux qu'on connaît, quoi. Ça aurait pu être une sorte de
spin-off.
Ouais, de spin-off, de hors-série.
Après, pour moi, le 3, c'était un bon passage de flambeau, quoi, avec la scène où Andy va, léguer ses jouets à Bonnie. C'est pour moi un très bon passage de flambeau. Ça nous montre aussi à nous qu'il faut maintenant grandir et peut-être accepter en fait sa vie adulte.
Non.
Si, malheureusement, si.
Est-ce que, enfin, moi j'ai un peu cette impression là parce que la scène finale du 3 est très bien faite, mais est-ce qu'elle rattrape pas un peu le film qu'il y a derrière? Parce que moi je trouvais que le film en lui-même était un peu long aussi au niveau du 3.
Parce que le 3 c'est celui qui se passe dans la crèche,
ouais.
C'est ça.
Ouais.
Bah moi j'ai trouvé ça que c'était une bonne idée, ça. Enfin, l'histoire de la crèche en fait. Enfin, pour trouver l'aventure et le scénario c'était sympa. Après, je sais pas.
Bah, on va dire qu'on avait un scénario assez simple dans le sens, mais assez efficace, où on a du coup un protagoniste, un méchant et un gentil, donc du coup l'ours en peluche, que contrairement en fait par exemple à Toy Story, donc je crois que c'est Toy Story 1 où il y a Sid, ou c'est le 2.
Oui, c'est le 1. Ouais.
Voilà, en fait c'est pas de sa faute, enfin. Il veut pas en fait faire du mal aux jouets. Enfin, si, mais il sait pas qu'ils sont vivants. Donc voilà, on peut le pardonner. C'est un enfant. Là, ça va être un ours en peluche qui va vouloir justement condamner du coup les autres jouets dans la crèche.
Oui. Et donc, je parlais que j'étais un peu anxieux à voir le 4. Il faut pas. Il faut noter que pour la promo de Tom Hanks qui fait la voix de Woody dans la version originale avait annoncé que la scène finale du 4 était une des scènes les plus émouvantes qu'il ait eu à tourner et à doubler de toute sa carrière. Et rien que pour ça, ça valait le coup de le voir. Et effectivement, la scène est un peu particulière. On va couper le micro de Marvin pour pas qu'il nous la spoil, parce qu'on sait qu'il aime bien ça. Mais on vous laisse découvrir par vous-même. Accrochez-vous à votre fauteuil. Et puis, on va enchaîner tout de suite sur Ciné 7 avec une autre grosse production Netflix de cette année 2019, qui, elle, a été primée pour sûr. C'est Marriage Story avec Adam Driver.
Ils n'ont eu aucun prix, j'ai vérifié. Et ils n'ont eu aucun prix dans toutes les nominations qu'ils ont eues.
Pour les deux ?
Pour Irishman, pardon.
Ah, pour Marriage Story, ils ont eu le meilleur second rôle, je crois.
Voilà.
Non ?
C'est
non.
Pour Laura Dern.
Oui, ah oui.
Si, il me semble
pour
bien.
Pour le rôle féminin.
Pour le rôle féminin. Donc, on va enchaîner avec Marriage Story. On se retrouve tout de suite après sur RKS avec ses Ciné 7.
I've been loving you. Long to stop now. You were tired and you want to be free. My love has grown stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't wanna stop now. Oh. With you my life has been so wonderful. Can't stop now. You're tired and your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows old. I've been loving you, oh, too long, to stop now. Oh, 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 I've been loving you. Oh, I don't need it.
C'était Blood Flow par Grand Brother, et juste avant c'était Otis Redding, la fameuse voix d'Otis Redding, et Redding pour I've Been Loving You Too Long, les bandes originales respectivement de Hors Normes et de Marriage Story. Jade, qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, moi c'est un film que j'ai adoré. Après il faut savoir...
Pour lequel?
Pour Marriage Story, je n'ai pas vu Hors Normes, je crois que personne ici à part Marvin ne l'a vu de tête. En fait ce qu'il faut savoir c'est que je regarde les Oscars chaque année, c'est mon petit plaisir coupable. Et du coup, j'essaye dans la mesure du possible de regarder tous les films sélectionnés, enfin tous les films qui sont nommés. Et c'est un film, Marriage Story, que j'aurais sûrement jamais regardé en fait si j'avais pas fait ça et si je m'étais pas forcée à le regarder. J'en avais pas entendu parler, j'en savais rien en fait, j'ai juste lancé le film sur Netflix. Et en fait, c'est un film qui m'a fait du bien dans le sens où il se passe pas grand chose. C'est un film du quotidien, voilà. C'est un film qui raconte une histoire comme il peut y en avoir mille, comme on en a sûrement vécu autour de nous, dans nos familles ou dans nos cercles proches, puisque ça raconte l'histoire d'un divorce en fait. Et en fait c'est un film tellement simple qu'il est efficace et j'ai adoré. Il y a des performances d'acteurs incroyables de Scarlett Johansson et Adam Driver, et de Laura Dern qui a eu du coup l'Oscar du meilleur
second rôle féminin, exact.
Et c'est vraiment un film qui un peu qui fait mal quoi. C'est un film qui pique un peu, mais moi j'ai adoré et je l'ai trouvé d'une authenticité et d'une sincérité incroyable que j'avais rarement vécu en fait devant un film.
Mais c'est vrai que c'est assez rare au niveau de la mise en scène. Effectivement c'est un film qui est très simple, qui veut nous accompagner, on pose une caméra dans une famille américaine quoi.
C'est ça, et... c'était presque dérangeant en fait, tellement c'était intime. Et les performances d'acteurs, ils sont pour beaucoup, mais j'avais vraiment l'impression de rentrer dans le quotidien d'un couple qui venait d'éclater. Et enfin, c'est dur à regarder, en fait.
Ouais, c'est vrai. Les performances, c'est celle d'Adam Driver qui m'a vraiment bluffé. Moi, qui le connaissais uniquement dans Star Wars, et avec un rôle que je trouve un peu ridicule. On ne va pas revenir sur le débat de Star Wars, on en a déjà parlé. Mais je trouve un peu ridicule. Et la performance dans Marriage Story est juste incroyable, elle est bluffante. Il était aussi nommé pour le meilleur... acteur masculin au premier rôle aux Oscars. Et en fait, rien que la scène d'ouverture, je trouve, donne le tempo de tout le film. Et je crois que c'est une scène qui t'a marqué, Marvin.
Oui, alors moi, en fait, quand je l'ai découvert, donc, j'avais vu en premier, sur la com de Netflix, sur Facebook, l'image de Marriage Story. Donc on voit un couple heureux en train de s'embrasser. Et j'avais pas vu la bande-annonce. Et du coup, quand moi j'ai vu le titre Marriage Story, je me suis dit, ça va parler d'une romance. Et au début, voilà, on a une scène du coup où en fait ça va nous montrer toutes les qualités du couple en question, donc tout ce qu'ils aiment chez la personne. Et d'un coup, on va rentrer dans un cabinet d'avocat où là, ça va être directement, on va parler de divorce. Donc au bout de 5 minutes de film, ça casse tout, on parle de divorce. Donc on sait qu'on va rentrer dans un film où ça va pas être une romance, ça va être plutôt tourné dans le drame.
Oui, c'est vrai que c'est la scène typique en fait, un peu une thérapie de couple, qu'est-ce que tu aimes chez lui, qu'est-ce que tu aimes chez elle. Et c'est une scène qui est très belle dans la production. Mais donc on se rend compte vite que Marriage Story, c'est la fin de l'histoire du mariage, quoi. C'est un couple qui est en fin de vie.
Mais ce qui était bien aussi, je trouvais, c'est que c'était pas forcément... Ils cherchaient pas à romancer, en fait. Enfin, les divorces, c'est moche, quoi. Enfin, c'est dur à vivre et c'est pas un film qui essaye de glorifier ça. Genre, c'était une belle histoire, c'est un beau divorce. Non, non, c'est trash, mais voilà, c'est la vie, quoi.
Et à savoir que du coup le film qui est réalisé par Noah Baumbach, qui avait aussi déjà fait un autre film, donc Les Bergman se séparent, donc déjà un film sur les séparations et sur divorce.
On sent un petit traumatisme là.
et bah justement, en traumatisme, en parlant de ça, en fait, ce film, c'est en fait un peu son biopic à lui-même, parce qu'il a divorcé de sa femme et ça s'est passé à peu près pareil. Donc il a raconté une interview par rapport à la garde de son enfant, parce que Marriage Story, en fait, tout le problème du couple en vient du coup à l'enfant, parce que sans l'enfant, il y aurait eu zéro souci. Il y en a un qui serait parti à Los Angeles, l'autre à New York, mais là le souci, c'est en fait ce qui pose problème, c'est la garde d'enfant. Qui va récupérer l'enfant? Et en plus l'enfant est assez dans le sens où il sait pas en fait où aller. Des fois il a envie d'être avec papa, des fois il a envie d'être avec maman, plus avec maman, et du coup c'est vrai que c'est assez ça peut être un crève-cœur pour le père. Ils sont chiants ces gosses, ouais. Putain.
Et Marvin, tu vas garder la main dans cet épisode de Ciné 7, parce que le second film dont on a écouté la très belle BO, c'est Hors Normes. C'est le premier film français qu'on diffuse dans Ciné 7. Mais malheureusement, tu es le seul à avoir vu ce film.
Oui, alors ça a été une petite découverte. Donc je ne savais pas trop quoi faire une après-midi. Je suis allé voir ce film dans un petit cinéma indépendant. Et ça a été une bonne petite claque pour un film français. À savoir qu'en fait, ce film-là, je crois bien que c'est celui qui a réalisé Intouchable.
Oui, il me semble
donc
aussi.
Donc Eric Toledano.
Ouais.
Donc avec en rôle titre Vincent Cassel et Reda Kateb, donc l'excellent Vincent Cassel, et aussi des acteurs de second rôle, donc notamment en fait, donc pour ceux que on va faire un résumé rapide, hein, voilà. Donc en fait, ça va être une histoire vraie où c'est un centre de refuge pour les jeunes en difficulté en fait. Avec la vie sociale, donc en fait ils sont plus ou moins handicapés mental ou physique, et ça va nous montrer en fait que ces personnes-là en fait ils sont non diplômés, et qu'on va avoir des inspecteurs du travail qui vont vouloir leur enlever les enfants, et qu'en fait totalement fermer leur centre de refuge. Et donc du coup on va avoir des très bons acteurs second rôle, donc notamment la pupille de Vincent Cassel dans le film, donc Benjamin Lessieur, donc qui joue le rôle de Joseph dans le film, qui est hyper touchant dans ce film là et aussi les musiques du coup qui sont très touchantes. On a une mise en scène assez simple, il y a pas des belles des photos si dingues que ça, mais ça fait vraiment le travail, et pour un film français c'est vraiment rafraîchissant.
Donc une belle découverte, on va s'empresser tous les trois d'aller voir ça et de se rattraper ça, parce que c'est quand même le premier film français de Ciné 7, et donc ce serait bien qu'on l'ait vu un petit peu. Oui, Jade, tu tiques, mais il me semble pas avoir fait d'erreur, parce que le premier épisode c'était les films des années 80 américains, et le deuxième c'était Tarantino.
Non, ouais. Non, mais...
Donc il me semble bien que ce soit le premier film français dont on diffuse la BO.
Et on vous incite à aller voir des films français, parce qu'il y a vraiment des grosses perles, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont voir des films français malheureusement. En ce moment, on est tourné beaucoup sur les blockbusters, mais il y a des excellents films français.
Il y a des excellents films français, il n'y a pas que des films, des comédies qui traitent de racisme et de communauté. Il y a d'excellents films, et on vous incite aussi à aller voir, à aller retourner au cinéma, parce qu'on a parlé de deux beaux films Netflix, mais il y a de très beaux films qui sortent au cinéma. Et il y a des films qui sont magnifiques à aller voir au cinéma, dont celui qui va conclure cet épisode de Ciné 7, que moi j'ai vu personnellement hier sur mon ordinateur et que j'aurais préféré voir et découvrir au cinéma. Je parle de 1917 de Sam Mendes, merci. C'est un très beau film, c'est un film qui est quasiment que en plan séquence, donc au niveau de la réalisation il est quand même incroyable, il est assez bluffant, mais c'est un film qui est tellement beau que j'ai pas spécialement beaucoup apprécié, et je pense que j'aurais mieux apprécié sur grand écran. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah en fait c'est donc la com a été faite en fait autour d'un plan séquence, donc faut savoir que forcément dans ce film là c'est pas un plan séquence unique, on va avoir quatre raccords dans ce film qui vont être tournés en fait dès qu'on va avoir un moment d'obscurité ou passer derrière un arbre, mais quatre plans séquences sur un film qui dure
2 heures,
c'est énorme, c'est déjà énorme. Les acteurs, faut pas qu'ils fassent de boulettes. dans le sens où il faut vraiment qu'ils aillent dans une direction dite, et pas qu'ils se détournent du champ de la caméra, et puis il faut pas se lomper sur son texte, enfin il y a pas mal de choses comme ça. C'est un énorme travail, et surtout aussi pour les soldats qui sont en arrière-plan, ils ont tous un rôle à jouer, les figurants,
c'est une vraie partition, c'est incroyable. Sam Mendes a été un vrai chef d'orchestre pour ce film, c'est vraiment bluffant. On connaît les fameux plans séquences de Hitchcock, mais là c'est vraiment impressionnant à voir, c'est très très poussé, c'est très très bien fait, et c'est ça qui est impressionnant dans ce film là et au niveau de la photographie aussi, visuellement c'est un film qui est
Roger Deakins
qui met des sacrés claques, ouais.
Et ce film là en fait, ce qui est l'avantage du plan séquence, c'est qu'on a l'impression d'être un soldat. On a l'impression de suivre tout à fait.
Mais c'est vrai de pas pouvoir se dépêtrer en fait, d'être. En fait, ça nous jette dans la scène et ça nous lâche plus, et t'es là en mode mais.
On voit comment c'était vraiment à la guerre, quoi.
C'est ça. Ils partent à deux, mais en fait, on a l'impression qu'ils partent à trois, quoi, avec nous dans leur mission.
C'est beau qu'elle y aille.
Et puis on a des scènes assez simples au final. Il y a des petites scènes où ils vont boire du lait, donc des trucs tout bêtes, mais qui est pas montré dans un film de guerre. Et ça montre que ouais, en fait, c'est des hommes comme nous qui ont fait la guerre, qui ont été obligés d'y aller. Plus ou moins jeunes, en plus, dans ce film-là, les soldats sont jeunes, je crois.
Ouais.
Donc, en fait, ça montre que voilà, tout l'enfer de la guerre, quoi.
C'est remettre un peu d'humanité dans ces grandes lignes de chiffres et de morts.
Mais finalement, c'est un thème qui est revenu beaucoup dans cette émission, l'humanité.
L'humanité,
de nous associer à ce qu'on voyait à l'écran.
Oui, c'est vrai, exact. Et puis tout à l'heure aussi, on parlait de beaucoup de liens dans cette année 2019. J'en ai trouvé un autre hier en regardant le film. C'est Richard Madden qui est dans ce film-là, mais qui a aussi un beaucoup plus gros rôle dans Rocketman. Mm. Bon, c'est anecdotique, mais effectivement, ça a été une année 2019 assez riche en termes de films, en termes de beaux films, parce qu'on a souvent des années très riches. On n'a malheureusement pas pu parler de tout. Je sais que Marvin avait bien envie de parler de Jojo Rabbit aussi, ou de Avengers pour nous tous. Il y a eu des très très beaux films, et on en a oublié certes beaucoup. On n'a pas eu non plus le temps de tout passer. Mais on va finir avec du coup 1600 Men, qui est la BO de 1917, composée par Thomas Newman. Et c'était du coup le troisième épisode de Ciné 7 sur RKS. On avait un invité spécial, Romain, qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui.
C'était un plaisir partagé, en tout cas.
Et ben, plaisir aussi. Ça vous a plu, les enfants?
Comme d'hab.
Comme d'habitude.
Toujours un plaisir de parler cinéma.
Et ben, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. On ne sait pas trop quel thème, mais n'hésitez pas à nous dire.
Bah là, on a beaucoup parlé de biopic.
Peut-être.
Ce qui se passe, il y a quelque chose qui se profile.
On a un peu oublié, enfin, on n'a pas eu le temps de parler d'Avengers, donc peut-être un super-héros, pourquoi pas. On a quelques idées, mais si vous avez vraiment une envie, vous n'hésitez pas, vous nous le dites. Et puis, vous pouvez toujours retrouver les playlists avec quelques bonus, mais les playlists de ce qu'on a diffusé sur la page YouTube de RKS. Et vous pourrez retrouver le podcast très rapidement. On se retrouve très vite tous ensemble et on se quitte sur 1600 Men de Thomas Newman, la BO de 1917. C'était Ciné 7 sur RKS et sur RKS.fr. À très vite. RKS.
I am your father.
On ne laisse pas bébé dans un coin.
88 miles à l'heure.